Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comment faciliter l'intégration scolaire d'un enfant vivant avec handicap? Je le disais, c'est le sujet qui va être abordé tout à l'heure avec nos deux invités. Professeur Yaoundi Mayenzambi, qui est déjà avec nous dans ces studios, les spécialistes en éducation. Professeur Yaoundi, bonjour.
Bonjour.
Il n'est pas seul. Nous avons également dans ces studios professeur Joachim Moukao Eboel, il est psychopathologue. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question sur comment faciliter l'intégration scolaire d'un enfant vivant avec handicap en RDC. De nombreuses enfants vivant avec handicap connaissent parfois des problèmes d'intégration scolaire si, pour certains, cela est dû au complexe suscité par leur infirmité. Pour d'autres, il s'agit surtout de la marginalisation, de la discrimination à leur endroit. Alors, avec nos deux invités, on va découvrir comment il faut faciliter l'intégration scolaire des enfants vivant avec handicap. Nous rappelons le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez au 081 890 163 94, je répète, 081 890 63 94, ou bien faites aussi à vous aussi réagir sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, je me tourne d'abord à ma gauche pour poser cette première question au professeur Yaoundi Mayenzambi, spécialiste en éducation. Pour ce qu'on parle de ce concept enfant vivant avec handicap, est-ce que vous voulez bien d'abord expliciter qu'est-ce qu'il faut comprendre par enfant vivant avec handicap?
Merci beaucoup pour l'invitation et pour la question que vous venez de poser. C'est très important parce que les thèmes que vous abordez, il s'agit de comment faciliter l'intégration scolaire des enfants avec handicap. Et il faut nécessairement établir une différence pour dire de quel handicap s'agit-il. Oui. Parce que, en fait, il ne faut pas confondre. Nous avons des gens que nous appelons des personnes différentes. Les personnes des albinos et les bossus. Les bossus sont, parfois, les gens les rangent dans la catégorie des personnes avec handicap. Mais il faut bien spécifier, il s'agit de quel handicap dont on parle ici. Mais en spécifiant ce type d'handicap, il faut considérer aussi les personnes différentes. Oui. Les abidances et les bossus et les bègues. Alors, et dans l'handicap, nous avons l'handicap intellectuel. Ceux qui ont un problème de déficience intellectuelle. Et lorsque nous allons spécifier le concept d'handicap, je préfère bien à ce niveau-là que le professeur Moukao puisse dire un mot. Mais moi, je dois voir beaucoup plus dans la globalité. Oui. Et y a-t-il une nécessité de faciliter l'intégration des personnes avec handicap en milieu scolaire? C'est la réponse est nécessairement positive. Pour quelle raison? Parce que là, nous nous situons dans le contexte de l'éducation inclusive. Et comme notre pays est en train de s'insérer dans cette logique de l'éducation inclusive, il y a nécessité que nous voyons dans quelle mesure faudra-t-il que les méthodes à utiliser puissent réellement permettre à ce que cette intégration des enfants avec handicap puisse être facilitée. Et une action pédagogique doit être engagée en faveur des enseignants. Parce que ce sont les enseignants qui doivent accueillir normalement dans un auditoire, dans une salle classe, des personnes supposées normales et des personnes supposées anormales. Donc, c'est avec handicap. Et comment doit-il procéder pour qu'il y ait cette acceptation qui facilite l'intégration? Il y a aussi l'accueil. L'école doit accueillir les personnes avec handicap. Il faut pas. Non, malheureusement, nos écoles sont construites dans un contexte pour recevoir ceux qui sont du point de vue physique normal. Si nous considérons l'handicap du point de vue moteur. Mais les écoles ne sont pas préparées à accueillir les élèves avec handicap physique et handicap moteur. Dans le sens que
pour certains handicaps, il faut de écoles spécialisées, c'est ça.
Donc, c'est-à-dire que non seulement des écoles spécialisées, des écoles qui soient capables d'accueillir, qui se mettent en situation d'accueillir. Et si nous ne voulons pas parler en termes de spécialisés, parce que le spécialisé déjà va dans le sens de la discrimination. Alors, nous voulons dire que toutes nos écoles ordinaires, dans le contexte de l'éducation inclusive, doivent nécessairement se mettre en mesure de recevoir des enfants avec handicap physique. Si nous considérons l'handicap physique seulement dans le contexte de l'intégration scolaire.
Donc, vous avez parlé des écoles qui doivent être en mesure mesure d'accueillir les enfants vivant avec handicap. Alors, je me tourne vers le professeur Joachim Mukawebwel, qui est psychopathologue. Alors, professeur, alors, ces écoles qui doivent être dans des conditions d'accueillir les enfants qui ont des handicaps, est-ce que vous nous aider à comprendre ces différents handicaps et puis comment on peut accueillir ces élèves?
Oui, merci beaucoup pour la question. Concernant les différents handicaps, j'aimerais un peu rapidement essayer de clarifier le terme handicap, oui. Le terme retard, le terme déficience. Oui. Et parce que souvent ça sème à confusion. Eh bien, lorsque nous entendons ces trois concepts, je commence par les concepts de déficience. Je prends un exemple, on dit déficience intellectuelle. Là, il s'agit d'un organe déficient. Là, nous sommes prenons au niveau du cerveau. Lorsque on compare un enfant par rapport à son développement normal, nous voyons par exemple que le développement n'est-ce pas intellectuel, n'est-ce pas, n'est pas au niveau, au même niveau que son âge. Nous disons il y a une déficience intellectuelle. Ben, lorsque nous parlons du retard intellectuel, c'est lorsque nous comparons l'enfant qui a 8 ans par rapport au groupe d'enfants de 8 ans et nous comparons son développement intellectuel, n'est-ce pas, et lorsque le niveau intellectuel de l'enfant qui a 8 ans est inférieur à son âge réel, prenons son âge mental est à 5 ans, nous disons que cet enfant a un retard intellectuel par rapport à son groupe d'âge. Ben, il y a maintenant le concept de handicap. Handicap, c'est par rapport aux exigences sociales. L'enfant qui a une déficience intellectuelle, n'est-ce pas, et qui, lorsqu'on le compare à son groupe d'âge, il a un retard intellectuel par rapport à la société, à ce qu'il doit faire, comportement adaptatif, n'est-ce pas, aux normes de la société, lorsqu'on voit cet enfant, l'enfant ne s'adapte pas, là on dira que l'enfant a un handicap, ça peut être mental, n'est-ce pas, ça peut être un handicap mental. Donc le terme handicap, c'est par rapport aux normes sociales. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour faciliter l'intégration des enfants qui ont un handicap? Parce que le terme est inclusion.
Parce que vous avez parlé d'handicap mental, est-ce qu'il peut également y avoir un handicap physique?
Ben oui. Donc, c'est-à-dire que il y a une déficience motrice, n'est-ce pas? Une déficience motrice, mais il y a aussi un handicap moteur. Handicap moteur, c'est-à-dire que nous devons monter les escaliers. On doit monter les escaliers. Donc, l'enfant qui a une déficience au niveau de sa motricité globale, n'est-ce pas, au niveau des jambes, peut avoir des difficultés à pouvoir monter. Là, nous dirons qu'il a un handicap, n'est-ce pas, au niveau de ses organes moteurs pour monter les escaliers, pour accéder, n'est-ce pas, avoir accès à un local. Là, il a un handicap moteur, n'est-ce pas. Donc, mais il y a une déficience au niveau, n'est-ce pas, des fonctions motrices. Ok, la déficience se situe au niveau des fonctions motrices, mais l'handicap, c'est par rapport, n'est-ce pas, aux exigences de la société pour la mobilité.
Voilà, prenons le cas maintenant de... Vous avez parlé du retard... un enfant qui a un retard mental, un retard intellectuel par rapport aux autres enfants de son âge. Et comment on peut faciliter l'intégration scolaire de tel enfant?
Oui, donc, d'abord, de manière générale. Hein, oui. De manière générale, lorsque nous parlons de l'intégration sociale, bon, les termes actuellement, on a créé un réseau mondial de l'inclusion scolaire. Donc, le terme, c'est inclusion. Inclusion. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'intégration, donc prenons l'inclusion scolaire d'un enfant qui a une déficience ou bien un handicap mental? Les problèmes se situent à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la politique globale du pays. Hein, la politique globale du pays. Prenons chez nous, en République démocratique du Congo, il faudrait qu'il y ait définition, n'est-ce pas, des politiques devant favoriser, n'est-ce pas, l'inclusion scolaire des enfants se trouvant en situation du handicap. Donc, ces politiques doivent être définies par le gouvernement. N'est-ce pas, il faudrait qu'il y ait des lignes maîtresses qui doivent être tracées par le gouvernement pour faciliter, n'est-ce pas, l'inclusion scolaire des enfants vivant en situation du handicap. En dehors, maintenant, lorsque ces lignes seront définies au niveau du gouvernement, il faudra que les consommateurs ou les consommateurs ou alors les gens qui vont exploiter ces politiques, notamment le système scolaire, n'est-ce pas, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, et le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère des affaires sociales, le ministère de la santé, soient en mesure de pouvoir éclater ça en objectifs observables afin de pouvoir en définir les finalités. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces enfants? Et lorsqu'ils vont définir cela, ça vient maintenant au niveau des écoles, n'est-ce pas? Aménager les infrastructures de manière, comme l'a dit le professeur Yawidi, de manière à ce que les écoles soient en mesure de pouvoir recevoir ces enfants. Là, se posera le problème d'abord de la formation. On ne peut pas parler de l'inclusion scolaire dans un pays lorsque le personnel enseignant n'a pas la formation qui est convenable. Il faudra d'abord que le personnel enseignant soit formé, n'est-ce pas, et soit capable de pouvoir recevoir ses enfants et puis il y a beaucoup de modules, nous voyons ça lorsque nous allons dans beaucoup de colloques. Oui. Lorsqu'on revient dans notre pays, nous trouvons que en tout cas la politique n'est pas encore définie, les politiques ne sont pas encore définies, je ne sais pas, et on réfléchit ça à quel niveau. Donc on doit arriver dans ce pays à définir les politiques qui devront favoriser l'inclusion scolaire des personnes se trouvant en situation de handicap, et les écoles doivent être associées. Ici, je pense que la principale structure qui doit être associée, c'est l'université.
Oui.
Parce qu'à l'université, on trouve des spécialistes qui réfléchissent, qui peuvent, n'est-ce pas, entreprendre de recherches pour voir quels sont les facteurs dans notre pays, dans le contexte du Congo, qui devront favoriser l'inclusion scolaire des enfants.
Oui. Vous avez parlé, il y a d'abord l'État qui doit organiser ces secteurs. Vous avez dit, il faut d'abord qu'il y ait une ligne directrice rapport à tout ce qui concerne l'éducation inclusive, c'est-à-dire voir comment tous ces enfants qui ont en retard intellectuel, en retard mental doivent être dans des conditions d'être scolarisés. Mais alors, moi, je me tourne vers le professeur Yaoudi. Prenons maintenant les cas des enfants qui ont des infirmités, par exemple. C'est-à-dire, c'est du côté mental, tout va bien, du côté intellectuel, tout va bien. Mais peut-être, là, des infirmités au niveau de bras, au niveau de la main. Et des fois, c'est pas aussi évident pour ces enfants d'être intégrés facilement. Et là, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, écoutez, lorsque nous sommes en train d'intervenir, que vous nous posez la question, en fait, vous ne devez pas vous attendre à ce que nous puissions donner une réponse qui soit spontanée, qui soit simpliste. En fait, il faut les situer dans un contexte général de réflexion. Oui. Parce qu'il s'agit nécessairement que notre pays puisse se mobiliser dans un contexte où il faut nécessairement faciliter l'intégration et l'inclusion. Nous revenions d'un colloque organisé à la Haute École Pédagogique de Vaud à l'Université, plutôt à Lausanne. Et en fait, nous, notre intervention était l'éducation inclusive en République démocratique du Congo, enjeu imperceptible. Et perspective. Mmh. Vous voyez, déjà dans ce contexte-là, nous avons eu à réfléchir, à pour présenter que dans notre pays, en réalité, nous devons contribuer à soigner la société d'une manière générale et à soigner la société scolaire. Il se pose réellement un problème de perceptions qui sont irréalistes. Vous voyez, nous sommes dans des situations. La personne avec handicap ou la personne supposée normale, il peut souffrir d'un complexe de supériorité, oui. Et celui avec infirmité ou avec handicap peut souffrir d'un complexe d'infériorité, mais avec conséquence. Celui qui souffre de complexes de supériorité, lui manifeste à l'égard de l'autre, il se survalorise, oui. Et dévalorise en même temps l'autre. Et dans le contexte de survalorisation, il se comporterait en agressif vis-à-vis de la personne qu'il considère comme étant inférieure, celui avec un handicap. Et dans ce contexte-là de l'agressivité, ça ne peut jamais permettre à ce qu'il y ait acceptation. Et cela peut faire en sorte que l'autre doit se sentir dans un contexte où il doit nécessairement fuir. Et cet aspect-là de soigner la représentation mentale et la perception intervient à ce niveau-là des complexes de supériorité. Et il y a aussi celui qui se situe dans une situation de complexe de supériorité peut manifester aussi un comportement arrogant vis-à-vis de la personne qu'il considère comme étant inférieure. Et il y a aussi la manipulation. Mais maintenant, celui qui souffrirait d'un complexe d'infériorité, la personne avec handicap, lui doit considérer que l'intelligence, c'est entre les mains de l'autre. Et s'il y a poser des questions, c'est à l'autre qu'on doit poser des questions. Donc ce complexe d'infériorité doit aussi être soigné de façon à ce que l'intégration soit facilitée. Mais maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous devons nécessairement faire? Oui. Parce que il faut l'envisager.
Allez-y rapidement, parce qu'il y a déjà des auditeurs en ligne.
Avec les différents handicaps. Oui. Avec les différents handicaps, vous avez évoqué, il y a des gens qui ont un problème même de dextérité, de pouvoir être qui influent sur les rythmes de travail et sur la progression de travail. Les maîtres a écrit un texte au tableau et les autres qui ont une certaine dextérité, ils arrivent à écrire et à terminer, et celui qui n'a pas une certaine dextérité, il est en retard. Et le maître pose la question, on peut effacer le tableau? Oui, mais lui, il est en retard. Vous voyez, dans ce contexte-là, il faut une méthodologie appropriée de façon à ce que l'enseignant réellement puisse se mettre dans des conditions où il doit favoriser l'intégration ou l'inclusion.
Voilà. Comment faciliter l'intégration scolaire d'un enfant vivant avec handicap? C'est le sujet abordé dans ce magazine Okapi Service. Donc, si vous venez de nous joindre sur la France de la Paix, et si vous êtes intéressé sur, par rapport à ces sujets, appelez au 081 890 63 94.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Barthélémy nous appelle de Bukavu. Barthélémy, bonjour. Bonjour Barthélémy. Barthélémy n'est plus en ligne, on espère qu'on va le retrouver. Il y a également notre auditeur, Dr Richard, qui est à Kinshasa. Bonjour Dr Richard.
Bonjour Marcel Ngombo.
On vous écoute, docteur.
Oui, je félicite votre radio pour avoir programmé un thème comme celui qui nous réunit aujourd'hui afin de cogiter. Je vais donner deux petits témoignages et peut-être poser une question.
Oui.
Le premier témoignage, c'est lorsque j'ai fini sa médecine, ici à l'Unikin, un collègue qui avait connu la brûlure à la main gauche était vilipendé en dernière année pendant le jury parce qu'on avait découvert son handicap. Et pourtant, c'est un monsieur intelligent parce qu'il connaissait sa matière, il passait en première session le plus souvent. Voilà, donc c'est pour dire que le problème d'intégration pose problème. On n'est pas médecin seulement pour travailler avec les deux mains. Il peut être médecin de laboratoire avec sa main droite. Voilà. Comme il peut être aussi médecin de chirurgie, mais pour arranger les instruments, instrumentiste. Voilà. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, j'étais dans une famille amie, non loin d'une école, l'école Tumba à Mungafula. Dans cette famille, on m'a parlé de ce qui est arrivé à leur enfant. Leur enfant qui lit tout lui-même. Quand il arrive en classe, il s'ennuie pour prendre note. Parce qu'il connaît tout ce que le professeur dit, il a les livres. En première année primaire, s'il vous plaît.
Oui.
Il n'écrit pas. Il n'aime pas écrire parce qu'il capte tout. Et il n'aime pas les examens écrits. Il aime les examens oraux. À la fin de l'année, il a échoué. Vous voyez un peu ça? Est-ce ça aussi c'est un handicap? Je comprends aussi pourquoi dans cette école, ma fille avait aussi été condamnée à reprendre l'année. Elle captait tout et n'aimait pas écrire. Elle dit, je connais tout, pourquoi je dois écrire? Voilà le problème d'intégration aussi. Alors.
La question, oui.
Mais la question, l'intégration, c'est bien par rapport à tout ce que nos amis ont dit, ou les invités. Mais l'intégration aussi par rapport à l'incapacité ou l'handicap de l'enseignant, parce que ça c'est un handicap. Comment ça peut se faire? L'enfant vient pour accéder à la connaissance. Il a la connaissance. Alors, maintenant, en quoi on doit le punir par rapport à un comportement qui est aussi un handicap?
Voilà.
C'est ça le problème.
Voilà. Merci docteur Richard, merci d'avoir appelé de Kinshasa. Lubumbashi, Ismaël, mon poète est en ligne. Bonjour Ismaël. Ismaël, bonjour. Ismaël n'est plus en ligne. On espère qu'on va également le retrouver. C'est le cas avec Barthélemy qui nous appelait de Bukavu. Alors, professeur Joachim Mouka, comment vous réagissez au propos de Dr Richard qui nous appelait de Kinshasa?
Oui, merci. Ben, je pense que Dr Richard a raison de poser cette question, une question qui relève directement du vécu. Et ben, vous voyez, là, ça me rappelle ce que nous avions présenté lors du colloque que nous avions eu à Lausanne avec le professeur Yaouidi. Donc, nous avions parlé des obstacles à l'intégration, hein, ou à l'inclusion. Vous voyez, ce que docteur, prenons d'abord l'exemple, le premier exemple du médecin qui avait été critiqué et tout parce que il avait une infirmité. C'est là où nous parlons de la sensibilisation de la population en ce qui concerne le problème lié au handicap. Ce médecin n'avait pas un handicap intellectuel. C'est pourquoi nous n'aimerions pas appeler les gens personnes handicapées. Personnes handicapées, actuellement, on est en train de élaguer ce concept. Nous voulons parler de la personne vivant avec handicap.
Oui.
Ce médecin vit avec un handicap moteur au niveau de la motricité fine, simplement. Parce que la motricité globale fonctionne. Sur le plan intellectuel, aucun problème. Vous voyez? Donc, il faudrait que la population soit sensibilisée, n'est-ce pas, à la problématique du handicap. Et c'est là où Dr Richard, n'est-ce pas, c'est le problème qu'il soulève. Mais en ce qui concerne son enfant, ou bien l'enfant de son voisin, qui captait tout, mais ne voulait pas écrire. J'aimerais informer Dr Richard et ceux qui nous écoutent que le système scolaire, de manière générale, comme le Congo, a prévu pour son fonctionnement de pouvoir bénéficier de l'appui technique de personnes qu'on appelle conseillers d'orientation. Ce genre qu'on appelle conseillers d'orientation ont pour rôle de procéder aux évaluations, n'est-ce pas, des enfants qui viennent pour être scolarisés, que ce soit au niveau de la maternelle, primaire, secondaire et universitaire. Si par exemple nous voyons que je formule une hypothèse, admettons que l'enfant du voisin et l'enfant du docteur Richard avaient un niveau intellectuel supérieur, n'est-ce pas, à leur âge, nous pouvons dire que ces enfants étaient des surdoués. Mais comment le savoir? Parce que, docteur Richard,
Pensez, s'il vous plaît, vous allez poursuivre avec cette réponse à la provocation du docteur Richard, mais puisqu'on a quelques problèmes avec de ligne, j'aimerais d'abord qu'on prenne des questions des auditeurs et ensuite on va poursuivre.
Va.
Jean d'Amboche nous appelle de Colosi. Bonjour Jean d'Amboche.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kati. Et je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à la radio communautaire libre qui a perdu leur rédacteur en chef à la personne de M. Moïse Zaki. Voilà. Avant de poser ma question, j'ai un témoignage. Je me rappelle bien lorsque j'étais en cinquième primaire au collège Jean 23 ici à Colosi. Nous avions étudié avec un ami handicapé. Alors, cet ami-là n'avait pas terminé l'année. Pourquoi? Parce que, selon ses propos, il a dit, je suis devenu comme un objet de moquerie, puisque chaque fois quand je passe, tout le monde me regarde, et ça ne me fait pas du bien. Cet ami avait abandonné les études. Alors, je voudrais poser la question à M. l'invité. Est-ce que c'est pas possible, parce qu'il y a d'autres handicapés qui souffrent de cette complexe d'infériorité liée à leur infirmité. Il n'y a pas moyen de construire une école pouvant accueillir seulement les handicapés pour pouvoir aller aider à s'intégrer. Voilà, je vous remercie.
Merci Jean d'Amboche depuis Kolwezi. On retrouve Ismaël Mopoy qui est à Lubumbashi. Ismaël, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tout le monde. Première préoccupation, l'intégration de ce genre de personnes, mais pourquoi? C'est un problème de la mentalité et de la considération. En préoccupation, j'espère que ces gens de personnes sont considérés comme des gens de la cordonnerie. Et à part ça, il n'y a pas aucune autre considération pour eux. Et qu'est-ce que l'invité peut nous dire ou qu'est-ce qu'il peut répondre à cette question? À leur niveau, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire le mieux pour que ces gens de personnes puissent aussi se ressaisir? Parce que soit ils sont plus intelligents, mais par moquerie, ces gens de personnes ne parviennent même pas, soit dans une école, ne parviennent pas à terminer toute une année. Mais selon la Bible, comme je l'ai souligné, pourquoi la considération est-elle importante, si on lit des apôtres chapitre 15, 10 plutôt verset 35, il dit que Dieu ne peut jamais rejeter personne. En toute nation, celui qui le craint, il est considéré devant lui. Alors pour lui, à son niveau, qu'est-ce qu'ils font ou quelles listes qu'ils sont en train de mener pour lui que ces gens de personnes soient été intégrés sans difficulté et sans problème.
Merci Ismaël Moupoy. Depuis le Lubumbashi, à Nounzou, nous avons Lunda qui est en ligne. Bonjour Lunda.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
J'aimerais d'abord un peu demander au recteur de l'éducation qu'il puisse un peu m'aider. Parce que moi, en 2013, j'enseignais dans une école catholique qui s'appelle Missagi à Nounzou. Dans cette école, j'ai encadré la classe de 6e, dont j'avais 36 élèves, mais l'un de mes élèves était infirme. Mais l'enfant-là manifestait un peu un comportement, je ne savais pas comment je peux le dire. Qu'est-ce que l'enfant faisait?
Oui.
Il venait souvent en retard, peut-être à 9h, et le cours à l'école primaire de 10 à 7h30. Lorsque vous demandez à l'enfant pourquoi vous arrivez à ce qu'il commence même à pleurer, il ne dit aucun mot, jusqu'à ce que vous tolérez, vous laissez, il prend dedans. Et d'autres fois, par exemple, dans des branches de gymnastique, l'enfant peut présenter ou passe à des temps. Dans un mois, il peut présenter même deux ou une fois. Là, m'avait un peu gêné, j'ai fait voir mon directeur et lui dire ma situation. Mon directeur m'a dit non, je ne peux pas guérir la maladie dont je ne sais pas le nom. C'est toi qui connais le nom de cette maladie, tu dois un peu guérir. J'ai aussi un peu forcé à comprendre sa psychologie et ce n'était pas du tout facile à comprendre. J'étais allé voir mon professeur de psychologie parce que j'ai fait mes études toujours dans ce même territoire. Mon professeur m'a un peu aidé, non, à cause du retard, il faut comprendre que c'est un infirme, puisqu'il manque de transport pour arriver à l'école, ça peut un peu être fier. Il faut appliquer la pédagogie de Marie Montessori, par là, ça peut aller. Mais, arrivé encore en classe, lorsqu'il y a peu de querelles, l'enfant est prêt à lancer un coup devant son frère, devant des camarades de classe. Ça m'avait un peu étonné, jusqu'à ce qu'on avait terminé l'année. Mais l'enfant avait passé la classe avec le même bêtise. Là, je ne sais pas qu'est-ce que les experts de l'éducation peuvent un peu m'aider avec de telles situations.
Mais dites-nous, finalement, l'enfant, il a bien poursuivi sa scolarité ou bien après il a arrêté?
Oui.
Il a poursuivi sa scolarité ou bien il a arrêté les études?
Il a poursuivi jusqu'à ce qu'il a eu son certificat et cette fois-ci, il est à l'école secondaire.
Voilà, merci beaucoup Lunda, merci d'avoir appelé des Nounzou, merci de votre témoignage, vous êtes enseignant. En tout cas, merci beaucoup, les invités vont réagir par rapport à votre question, par rapport à votre préoccupation, et surtout à ce que vous avez eu vous-même à vivre avec un enfant infirme. Merci d'avoir appelé. Puis on va prendre les derniers auditeurs, je pense bien, c'est Aubert qui nous appelle d'Ouvira. Aubert, bonjour. Bonjour Aubert.
Bonjour, oui, bonjour, je suis Aubert Mégatécha, je suis Ouvira. Dans la province de
Tissouzou. On vous écoute, Aubert. Aubert, essayez de vous éloigner de votre radio, carrément vous fermez votre radio, parce que là, on a du mal à vous suivre. Essayez de vous éloigner de votre radio, carrément vous fermez votre radio, vous allez suivre avec votre téléphone, j'espère que c'est fait. Allez-y, Aubert,
oui,
posez votre question, allez-y.
De mon poste de récepteur, je ne sais pas si ça va maintenant.
Bon, allez-y, posez votre question, allez-y.
Oui, avant de poser ma question, moi, je suis du même avis que c'est là qu'il pense qu'il faut des écoles spécialisées sur les enfants vivant avec handicap, parce que jusque-là, à mon humble avis, je pense que c'est pas vraiment une discrimination à leur égard. Et si c'est une discrimination, elle est donc positive pour permettre à ces enfants de bien évoluer.
Oui.
Parce que nous sommes en train de le voir même pour des centres de formation professionnelle qui sont spécialisés juste pour les personnes vivant avec handicap. qu'est-ce qui parviennent à terminer la formation et aujourd'hui elles sont utiles dans nos communautés. Raison pour laquelle moi, je pensais que si nous mettons ensemble ces enfants qui vivent avec handicap, avec ceux-là qui sont en état normal, je crois que ça serait une façon de les pénaliser. Et si tel n'est pas le cas, mais non, ça c'est la question que je dois poser aux invités qui sont là au studio.
Oui.
Comment un enseignant peut parvenir à satisfaire au même niveau les élèves en état normal et les élèves en retard mental? Voilà, c'était ça ma question.
Merci Aubert d'avoir appelé d'Ouvira. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé par rapport à ces sujets sur comment faciliter l'intégration scolaire d'un enfant vivant avec handicap. Alors, on revient à nos deux invités qui sont avec nous dans ce studio. Professeur Moukaou, vous étiez en train de répondre par rapport à la préoccupation du docteur Richard, parce que je veux me tourner vers professeur Yaoudi pour répondre également à certaines questions, mais finissez d'abord votre idée par rapport à cette préoccupation du docteur Richard qui a parlé de cet enfant qui, quand il est à la maison, tout va bien, il lit, tout se passe bien, mais quand il arrive à l'école, il se pose de problèmes. Comment expliquer cela?
Oui, donc j'étais en train de dire que l'enfant qui est à la maison est en train de lire, et puis il arrive à l'école, il s'ennuie. C'est là où je dis que Dr Richard doit tout faire pour faire consulter son enfant afin qu'on puisse déterminer son profil, qu'on puisse élaborer un profil de personnalité. Il se pourrait que son enfant est surdoué, ça c'est une hypothèse. Et lorsque l'enfant est surdoué, et les matières qu'on lui présente peuvent se révéler inférieures à ses capacités intellectuelles. Alors il est vrai que lorsqu'il arrive à l'école, ce sont des choses qu'il connaît et dont il attend, et d'autres choses qui sont au niveau supérieur. Et ça, c'est normal. Mais il faudra encore voir qu'est-ce qu'on lui présente à l'école. Parce que je travaille avec le parent depuis très très longtemps. Je sais, les parents ont également des appréhensions concernant leurs propres enfants. Qu'est-ce qu'on lui présente? C'est ça encore, il faudra bien voir. Est-ce que ce que Dr Richard appelle lecture, écriture, calcul à la maison, est-ce que c'est la même chose que l'école? Est-ce que c'est la même définition? Tout cela est à voir. Ce n'est pas sur le plan seulement mécanique, mais ça, ce sont des aspects beaucoup plus scientifique. Docteur Richard est scientifique, il sait mieux aussi qu'il puisse faire appel à certains spécialistes scientifiques afin qu'il puisse l'aider, afin qu'on puisse évaluer ces enfants-là.
Voilà. Là, le professeur Yaoudi, il y avait également d'autres questions. Vous avez suivi Aubert qui a posé la question de savoir combien d'enseignants doit faire pour assurer le même enseignement par rapport aux enfants qui sont normaux, aux enfants vivant avec handicap. Et vous avez également suivi Lunda qui nous a fait part de son témoignage comme enseignant. Et comment il faut concilier tout cela? Parce que vous avez suivi deux fois l'enfant qui vivait avec handicap, qui arrivait en retard, qui pleurait, puis qui était deux fois agressif. Et comment un enseignant peut gérer tout cela?
Merci beaucoup pour la préoccupation de l'auditeur. Vous savez, nous devons considérer que tout le monde, tous les enfants ont droit à l'éducation. Que ce soit l'enfant avec handicap ou l'enfant sans handicap. Et il faut aussi que l'éducation se réalise dans une ambiance de paix, dans une ambiance de sécurité affective. Il faut que dans les contextes de l'éducation, les éduqués puissent avoir une estime de, l'estime de soi qui soit forte et une bonne image de soi. Et c'est dans ce contexte-là où on a voulu, on veut bien, dans le contexte de l'éducation inclusive, que tous ces enfants puissent se retrouver ensemble. Parce que les pays, la société a besoin des apports de tout le monde pour son développement. Alors, on ne doit pas exclure d'autres personnes, c'est en termes-là de stigmatisation. Et lorsqu'il y a un auditeur qui est en train de dire, écoutez, moi je pense que la solution est de pouvoir séparer qu'il y ait des écoles spécialisées, ça c'est une bonne manière d'enfoncer davantage ceux à problème, ceux avec handicap, ceux avec handicap dans le contexte où il puisse se considérer comme ne pas être utile. Parce qu'il faut nécessairement qu'il se voie que nous avons le même niveau d'intelligence, les capacités intellectuelles. L'école, c'est la visée, c'est l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui doit être le dénominateur commun de façon à permettre l'acquisition des savoirs scientifiques lorsqu'ils sont enseignés au niveau de l'école. À ce point de vue, que ce soit avec l'enfant avec handicap physique ou l'enfant sans handicap, à ce niveau-là, tous ont le même dénominateur commun, l'intelligence. Alors maintenant, lorsqu'on parle de l'intégration scolaire, il faut maintenant préciser, s'agit-il de l'intégration à l'école ou bien de l'intégration en classe? Parce qu'autrefois, on séparait des écoles pour qu'il y ait des écoles spécialisées, non nécessairement qui accueillent ceux avec handicap, et des écoles ordinaires qui accueillent ceux qui sont sans handicap. Et on évolue, on dit non, 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 nous devons les placer tous dans une même école, mais dans des classes séparées. Alors, cette fois-là, d'un côté, vous avez les enfants avec handicap, d'un autre côté, les enfants sans handicap. Maintenant, on est tenté d'évoluer. Nous sommes au 21e siècle. On est tenté d'évoluer. On dit que tous ces enfants doivent se retrouver dans la même classe. Alors, quel serait le comportement de l'enseignant? C'est pour cela qu'on dit que l'enseignant doit être celui qui est nécessairement appelé à former dans une école inclusive, dans une classe inclusive. Est-ce que les enseignants, les programmes de formation que nous suivons maintenant à l'école pour la formation des enseignants va dans le sens de former des enseignants pour une éducation inclusive? Non. Et c'est pour cela dans les contextes, à l'Université pédagogique nationale, nous avons un département de gestion et administration des institutions scolaires et des formations. Nous sommes en train d'envisager les options d'études dans le cadre des réaménagements des programmes de formation, que nous ayons les options qui abordent nécessairement la gestion des écoles, la formation des gestionnaires et administrateurs des écoles maternelles, des gestionnaires et administrateurs des écoles primaires, des gestionnaires et administrateurs des écoles secondaires, dans un contexte où ils auront une certaine maîtrise du point de vue de la pédagogie, du point de vue de l'administration, du point de vue des finances, à pouvoir gérer dans une école qui serait aussi une école inclusive. Et nous avons une faculté de pédagogie et de didactique des disciplines à l'Université pédagogique nationale, avec comme orientation la formation des enseignants qui doivent intervenir à l'école maternelle, des éducatrices de l'école maternelle et des enseignants de l'école primaire, de façon à ce qu'ils soient outillés davantage lorsqu'ils sont dans une classe réellement inclusive, comment ils doivent se comporter. Et les recherches avec nos étudiants, que ce soit au niveau des TFC, que ce soit au niveau des mémoires, sont orientés dans les contextes de l'éducation inclusive. Quelle méthode d'approche doit-on utiliser pour permettre à ce que l'enseignant puisse s'occuper à la fois de tous ses enfants? Et ces approches, je vous ai dit, le premier des éléments, c'est la perception mentale. C'est la représentation mentale. Quelle est la perception mentale que l'enseignant a de l'enfant avec handicap? Quelle est la perception mentale que l'enfant avec handicap a de lui-même? Quelle est la perception mentale?
Ça c'est également très important. J'aimerais vraiment que le professeur Moukar puisse commenter par rapport à ça, parce que là, un auditeur qui l'a évoqué, et également, c'est complexe, hein, des infériorités de la personne vivant avec handicap. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la personne aussi elle-même?
Oui, par rapport donc à la perception que la personne avec handicap a d'elle-même, je pense que nous voyons très très bien que la personne qui a un handicap, si je dis handicap mental, se dévalorise déjà. Donc c'est une personne qui, en réalité, par rapport aux normes de la société, n'est pas à mesure de pouvoir faire des choses.
Dans un bon niveau d'un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant comprenne qui est un enfant vivant avec handicap? Qu'est-ce qu'il faut déjà faire pour éviter que cet enfant puisse grandir avec ce complexe-là?
Oui, pour éviter que l'enfant vive avec ce complexe, il faudra lui faire des choses qui correspondent à son niveau intellectuel. Oui. Voyez, nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent des écoles ordinaires et qui sont sujettes à des échecs à répétition, échecs scolaires à répétition. Et bien, lorsqu'ils viennent, prenons un enfant qui a été en 5e primaire, et les enseignants ne s'étaient pas rendus compte que les échecs étaient liés à un problème intellectuel, à un niveau intellectuel bas. Et bien, lorsqu'il vient, on évalue l'enfant, on constate que, entre autres, il y a un problème du développement intellectuel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'enfant ne puisse pas avoir ce qu'on appelle la perte d'estime de soi? Donc, il faudrait bien qu'on puisse faire des choses à l'enfant qui correspondent à son niveau intellectuel, à ses capacités intellectuelles. Lorsqu'il va réussir, c'est alors qu'il va se valoriser au fur et à mesure. Donc, le problème se pose à ce niveau. L'éducation inclusive veut dire faire bénéficier, comme l'a dit le professeur Yaouidi, à chaque enfant l'éducation, mais correspondant à ses capacités. Tout enfant a droit à l'éducation. Je sais que notre pays a défini les politiques, mais qui restent encore, n'est-ce pas, donc sur le plan des définitions seulement, qui ne sont pas encore téléchargées au niveau des écoles, voyez. Donc, il faudra bien que chaque enfant se sente libre à bénéficier, n'est-ce pas, de formations qui correspondent, n'est-ce pas, à ses capacités intellectuelles. Lorsque l'enfant réussit, c'est alors qu'il est content. Mais lorsqu'il ne réussit pas, en tout cas, lorsqu'il ne réussit pas, l'enfant se dévalorise. L'enfant se sent mal à l'aise, voyez. Et par rapport aux autres qui vont se moquer de lui, on lui dit de lire la lettre A, il ne lit pas, il n'arrive pas à lire, alors que les autres qui sont dans la même classe lisent. Alors que lui, en réalité, il pouvait faire la pré-lecture, mais lui, on lui dit de faire la lecture. Et déjà, à ce niveau-là, ça va pas.
Donc, si je comprends bien, donc, c'est bon de parler de l'éducation inclusive, mais il faut d'abord qu'il ait un plan directeur qui mette en place les conditions sur la formation des enseignants, qui mette en place des écoles qui soient même d'accueillir.
Ça, tout à fait. Et vous voyez bien que lorsque nous réfléchissons comme ça, nous voyons bien que sur le plan rationnel, il faudra bien que nous puissions nous arrêter au niveau du pays pour redéfinir, revoir, n'est-ce pas, revisiter les programmes de formation scolaire. On doit revisiter ça. On doit encore revisiter la problématique de la formation de l'enseignant. C'est comme nous disons à l'UPN. Nous sommes en train de réfléchir déjà à ce niveau. Quelle formation donner, n'est-ce pas, à l'enseignant qui va intervenir au niveau maternel, donc à l'éducatrice, au niveau maternel. Il est vrai qu'au niveau des programmes que nous proposons déjà, il y a des notions ou des modules liés au handicap, de manière à permettre à l'éducatrice déjà de maternelle d'être sensibilisée sur l'attitude à avoir une fois qu'elle a un enfant avec handicap en maternelle, et à l'enseignant au primaire, ainsi de suite. Donc, en tout cas, il y a important et urgence de pouvoir revisiter le programme de formation, n'est-ce pas, comme cela est en train d'être fait dans beaucoup de pays. Vous voyez,
voilà.
Dernièrement, j'avais été invité au Parlement au niveau de la commission socio-culturelle, lorsqu'on était en train de réfléchir sur la ratification, n'est-ce pas, des problèmes du handicap. C'était très important de pouvoir redéfinir les types du handicap. Et afin que ce type de handicap puisse faire partie de la problématique, n'est-ce pas, de la santé.
Voilà. Pour ça, on retient que, en tant merci, on retient que c'est important d'avoir un plan directeur par rapport à cette formation inclusive. Nous vous disons merci d'être venu dans ce studio. Merci à vous, professeur Joachim Mukaweboy. Vous êtes psychopathologue. Également, professeur Yaoudi Mainzambi, spécialiste en éducation, pour aborder avec nous comment faciliter l'intégration scolaire d'un enfant vivant avec handicap. Nous avons remarqué, vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à cela. On pourra y revenir prochainement. Merci d'être venu.
Merci.